Alors passez-moi un fromage, ça, ça sera un peu plus pratique aussi. Merci.
Donc le sujet que je propose aujourd'hui, peut-être vous avez vu dans le mail, c'est comment se concrétise dans notre vie le don de la Torah au Sinaï. Bon, c'est une vaste question, évidemment. C'est sûr que le don de la Torah au Sinaï est un événement historique central, tellement que Rish Lakish dit dans le traité Shabbat que ce qu'on dit au début de Bereshit, Vayerev Veivoker Yom HaShishi, ce fut le soir, ce fut le matin Yom HaShishi, ce serait le sixième jour. Pour compte, on ne dit pas Yom Shishi, on dit Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shishi, cinquième jour, et le sixième jour. Yom HaShishi Vechulu HaShemim Varetz. Yom HaShishi, le E. Alors Rish Lakish dit, c'est pour nous dire que le monde entier, toute la création, dépendait de ce sixième jour, c'est-à-dire le 6 Sivan où la Torah a été reçue sur le mont Sinaï. Donc c'est évidemment complètement central. Donc dire que c'est central, c'est pas le sujet ce soir. C'est central, on est d'accord là-dessus, c'est central. Maintenant, le point, c'est comment ça se concrétise dans notre existence, le fait qu'il y a eu, à un moment T, le don de la Torah au Sinaï. Est-ce que ça a un impact dans notre vie? Voilà, on vit, là, voilà, bonjour, comment ça va? Est-ce que ça a un impact, le fait qu'il y a eu le don de la Torah au Sinaï, ou non? Alors vous allez me dire, oui, évidemment, il y a les commandements de la Torah. Mais de manière plus prosaïque, plus simple encore, voilà, plus dans l'existence. Voilà. Alors, comment aborder ça? Regardons dans Vayikra. Prenons. Bon, alors, vous connaissez un petit peu les études que nous faisons. C'est toujours un petit. J'aime bien quand c'est un petit peu dans la réalité des choses. Donc la réalité est toujours des fois un peu rude, n'est-ce pas? Ouais, bon, c'est comme ça, ce qu'on peut faire. Alors, prenons dans le Lévitique, page 189 de l'édition que vous avez là. 189. Alors, une fois, j'étais avec mon épouse chez un gynécologue, voilà, et ce monsieur qui est dans le 19e arrondissement, je ne sais pas quelle mesure est-il pieux, mais en tout cas, il a beaucoup dans un gynécologue juif, ça va de soi, évidemment. C'est bon. Et ce monsieur, donc, une grande clientèle juive pieuse dans le 19e arrondissement. Bon, comme c'est un très bon médecin, il a eu beaucoup de dames donc, pieuses du 19e arrondissement qui vont. Bon, comme il a vu un peu que j'avais l'air un petit peu de m'y connaître, il s'est risqué quelques questions. Il dit, monsieur le rabbin, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que vous pouvez m'expliquer avec précision, pourquoi le sang menstruel rend impur? Et qu'est-ce que, dans la Torah, on considère cette impureté? Alors, il y aurait deux réponses, comme ça, sur un pied à donner. Mais la réponse première, qui est choquante, va, nous allons l'aborder dans le verset, Kaf et du chapitre Tetvav. Donc, c'est-à-dire le verset 25 du chapitre 15, donc page 189. Donc, dans la page Parasha de Motsora, sont abordées les puretés, impuretés qui viennent du corps de l'homme ou de la femme. L'homme aussi a il peut être source d'impureté. Voilà. Alors, regardez le verset 25, verset Kaf et Ve'isha qui yazuv zov dama yamim rabim belo et c'est verset 19. Verset 19. Ve'isha kit yezava dam yezova bifsara shivat yamim tie benidata. Une femme, quand elle aura un écoulement, du sang coulera dans sa chair. Je reprends. Ve'isha kit yezava. Quand une femme aura un écoulement, dam yezova bifsara, du sang coulera dans sa chair. Bien. Que ça veut dire dans sa chair? Passage très important, verset très important, mais ce n'est pas le cœur de notre sujet. Alors, sur Vaïkra, sur le Lévitique, il y a ce qu'on appelle un Midrash Halakha, qui s'appelle le Torah de Kohanim. Il y a comme des Mishnayot sur les versets du Lévitique, sur l'impureté et l'impureté, il y a des Mishnayot, ça s'appelle Torah de Kohanim. Le Torah de Kohanim remarque que c'est un futur qui est d'ailleurs rendu en français, plus ou moins, lorsqu'une femme éprouvera le flux. Son flux, c'est le sang qui s'échappe de son corps. Pourquoi est-ce au futur? Une femme, quand elle aura un écoulement, du sang coulera dans son corps. Ok? Le Torah de Kohanim, donc c'est des Tanaïm, de la Mishnah, disent que le futur indique que l'impureté, c'est à partir du don de la Torah au Sinaï et pas avant. C'est-à-dire, le futur indique qu'elle n'est pas impure en tant que telle, elle est impure à partir du don de la Torah au Sinaï. C'est pour ça que c'est au futur. Elle n'est pas impure en tant que telle. C'est plus tard, quand il y aura le don de la Torah au Sinaï, elle deviendra impure dans ces circonstances. Ainsi que toutes les lois d'impureté. Je prends ce cas-là, parce que c'est un cas sur lequel tout le monde se pose des questions, mais un autre cas, on va prendre d'autres versets. Dans Bamidbar, les nombres. Regardez Parashat Troukat. Voilà. Regardons le début de Parashat Troukat, page 253. Vous savez qu'il y a la vache rousse. La vache rousse, c'est-à-dire que... est-ce que quelqu'un de notre noble assemblée peut nous dire qu'est-ce que c'est la vache rousse? Parfait, toc. Oui. Oui.
Mais en fait, quand on l'a trouvé, c'est juste qu'on l'a trouvé, c'est pas éjourné.
Et qu'est-ce qu'on fait après?
On la brûle.
On la brûle.
On se purifie avec le Kohen
Oui, allez-y.
Les filles, l'ethnie Israël, et en même temps, il devient lui-même impur, donc il faut que...
Mais ça sert à quoi? Il purifie quoi?
À l'impureté des morts.
Voilà, l'impureté de la mort. Alors, le début de la paracha Troukat, oui, parle de ça. C'est-à-dire, quelqu'un touche un mort, devient impur. Ça s'appelle Toumat Met. Quelqu'un touche un mort, devient impur. Ou bien, quelqu'un vient dans la pièce où il y a un mort, celui qui va dans cette pièce devient impur. Comment se purifie-t-il? Presque toutes les purifications, c'est en allant au bain rituel. Parce que les lois de pureté et d'impureté sont extrêmement développées dans la Torah. Aujourd'hui, dans la vie quotidienne juive, il ne reste que deux éléments. Le Kohen, un Kohen, ne doit pas être en contact d'un cadavre. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, il y a la pureté familiale. Pureté familiale. C'est ce qui reste, grosso modo. Aussi, on ne doit pas aller sur l'esplanade du temple, aujourd'hui, dans un état d'impureté. On ne va pas sur l'esplanade du temple. Il y a des gens qui vont sur l'esplanade du temple, tant pis pour eux. Mais on ne va pas sur l'esplanade du temple. Voilà. Parce qu'on est dans un état d'impureté. Maintenant, donc c'est ça ce qui reste aujourd'hui. Mais dans la Torah, les lois de pureté et d'impureté, quand il y a le temple de Jérusalem et tout ce qui est périphérique au temple de Jérusalem, les lois de pureté et d'impureté sont extrêmement développées. Exemple, il y a un rat crevé. Un rat, c'est un rat. Ouais, un rat crevé. On touche un rat crevé ou un lézard crevé ou un hérisson crevé. On devient impur.
Et l'insecte ?
Comment ?
Et l'insecte ?
Non.
Le serpent aussi ?
Non.
Non,
le lézard, mais pas le serpent. Pourquoi ? Vaste sujet. D'accord ? Bien. Ok, c'est des sujets, personnellement, j'adore ces sujets. Voilà. Mais, alors c'est très très développé. On étudie le Talmud. Dans le Talmud, on fait un traité de Talmud. Il y a plein de sujets sur là-dessus, dans le Talmud. Ok. Alors, quelqu'un a touché un rat crevé. Aujourd'hui, ça n'a pas d'incidence. Ça n'a aucune incidence. C'est par rapport au temple de Jérusalem. Mais lorsqu'il y a le temple de Jérusalem, qu'est-ce que cette personne fait? Elle se suicide, qu'est-ce qu'elle fait? Non, ça ira. Elle va au bain rituel, et le soir, cette personne est pure. D'accord? Bien. Une femme a ses règles, ouais, elle est impure. Elle va, au bout d'un laps de temps, donnée au bain rituel, elle est pure. Mais aussi, pas seulement ça, un homme a une émission de sperme, il est impur. Il va au bain rituel, il devient pur. Aujourd'hui, ça n'a pas d'incidence. C'est par rapport au temple de Jérusalem. Bon, les chassidim vont systématiquement tous les matins au mikvé. Voilà. Vous demanderez au Baal Shem Tov pourquoi. Mais en tout cas, je parle au niveau halakhique. Au niveau de la halakha, c'est comme ça. Bien. En général, on va au bain rituel. Donc, ce que je veux dire, c'est pas que le bain rituel, c'est pas que féminin. Dans la Torah, en général, on va au bain rituel, on est pur après. C'est bon. Mais quelqu'un touche un mort, le bain rituel ne suffit pas. Il faut être aspergé de la cendre de cette fameuse vache rousse. Pourquoi? Comment? Ben, ça c'est dans Parashat Troukat. Mais regardez le premier verset. Troukat, donc page 253, premier verset. Vaïdaber Hashem el Moshe velaron lemo. Donc, Dieu parle à Moshe et à Aaron en disant « Zot chukat haTorah asher tziva Hashem lemor » Voilà le décret de la Torah que l'Éternel a ordonné, etc. Donc, ce qu'on a dit succinctement, c'est tout ça. Les commentateurs demandent « Pourquoi est-ce pris ?» Voilà le décret de la Torah. Pourquoi est-ce introduit par « voilà le décret de la Torah » Un très grand maître, Rav Chaim Ben Attar, explique de la manière suivante, dans son commentaire « Or HaChaim », il explique de manière magnifique, il dit « parce que c'est lié au don de la Torah, quelqu'un n'est pas juif, il touche un mort, il est ni pur ni impur, rien du tout. » De la même manière, une dame non juive, excusez-moi l'expression, elle a ses règles, elle n'est ni pure ni impure. C'est ce lié au don de la Torah au Sinaï. C'est pour ça que c'est écrit Isha qui t'y est avant, quand elle sera, c'est-à-dire c'est après le don de la Torah, elle devient impure. C'est lié au don de la Torah.
Alors les autres règles, non. C'est pas du pluriel, c'est pas du juif.
Non, c'est les lois de pureté et d'impureté. Un non-juif, oui, un non-juif, il touche à un rat crevé, nothing. Nothing to declare. Voilà. Il n'y a rien à déclarer. Quelqu'un qui est juif, donc il y est, qui a l'impact du don de la Torah au Sinaï, il touche un rat crevé, il devient impur, il doit aller au bain rituel. C'est bizarre quand même. C'est logique ça? C'est bizarre, non? C'est quand même bizarre. Alors, je vais vous dire, ça fait longtemps que je réfléchis à ça, et j'avoue que j'ai jamais entendu une réponse satisfaisante. Comment ça se fait? C'est vraiment bizarre. C'est zarbi.
Comment ça se fait que ce soit spécifiquement
lié au don de la Torah? C'est ce qui est écrit dans le verset. Zotrukata Torah, c'est le décret de la Torah. C'est pas sympa, je veux dire, nous on dit, voilà, on est les Foges, ouais, on est la race des seigneurs, on a reçu la Torah au Sinaï, ouais, Got Mitouns, ouais, pour ceux qui ne sont pas germanisants, Got Mitouns, vous comprenez ce que ça veut dire? Vous comprenez? Ça veut dire Dieu est avec nous, en allemand, c'est... ouais, c'est... ça fait mieux en allemand. Et donc, on a reçu la Torah au Sinaï. Alors, on pourrait dire, on a des bonus, on part avec des bonus. C'est plus compliqué. Bon, on sait que c'est plus compliqué d'être juif ou non juif. Ça, on le sait. Ça, c'est connu. Nos parents nous l'ont dit. Mais mais que ça se concrétise, un non juif touche un mort, no problème. Il n'est ni pur ni impur. Il est pur, disons même. Un juif touche quelqu'un qui est mort, il y a tout un processus de purification complexe. C'est bizarre. Alors j'ai dit au médecin, donc vous voyez bien, de là, c'est pas la règle, c'est pas parce qu'une femme a ses règles qu'elle est impure. La preuve, pour avoir une dame, elle a des règles, elle peut être pure. Donc c'est pas ça. C'est pas ça qui rend impur. C'est pas le flux menstruel qui rend impur. Puisque, alors c'est quoi? Alors, bon, le pauvre, il a regretté de m'avoir posé la question. c'est étonnant quand même. Comment?
Parce que dans cette situation, il n'espérait pas vraiment une réponse. Il n'espérait pas une réponse.
Parce que je pensais que tu étais femme. Je pensais pas.
Comment?
Non, la réponse pour lui, c'est
que... Oui, que c'était une oui, c'est ça. C'est-à-dire que la Torah donne une malédiction aux femmes, etc. Non, pas forcément. C'est pas forcément. Oui, ça interpelle quelque part, n'est-ce pas? Mais nous aimerions trouver une démarche satisfaisante. Alors, on va faire plus... Alors, Maïmonide, oui, grand Maïmonide, toujours en forme, va nous présenter d'un sujet plus simple que ce que je viens de dire, où il va nous dire... que c'est lié au don de la Torah au Sinaï. C'est ce que nous allons voir, c'est les lois du mariage. Alors, je n'essaierai pas, je ne pense pas qu'on va sortir là avec une réponse vraiment 100% sur l'interrogation que je viens de poser. Mais on va... aborder un sujet qui, lui, je pense, ça sera plus aisé de faire le tour, par contre. Et ça nous donnera une idée un peu plus claire. Je vous passe le texte. Ah.
Non, ça va, c'est bon, je pense. Il y a ce qu'il faut. Ça passe, ça passe. Vous voulez un texte? Alors. Bien. Alors, ce texte est tiré du Mishneh Torah du Rambam. Donc Rambam, c'est Maïmonide. Et Maïmonide, à notre étude du jeudi soir, je rapporte assez souvent, Maïmonide est un des très très grands maîtres, ce qu'on appelle les Rishonim, des grands maîtres de notre tradition du Moyen-Âge. Alors, en Occident, Maïmonide est très connu en cela qu'il a écrit le Guide des Égarés, Moré Nevochim. Certes, mais dans notre tradition, Maïmonide a une place centrale, principalement parce que c'est un décisionnaire. C'est un juge rabbinique. Il a écrit une œuvre sublime qui s'appelle le Mishneh Torah, où il amène toutes les lois des 613 commandements de la Torah. Bien. Alors là, nous allons faire le début des lois du mariage. Donc c'est un livre de lois, j'insiste. C'est un livre de lois. Ilchot Ishut, loi du mariage. Ishut, 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 c'est le mariage. Ilchot Ishut, les lois du mariage. Perek Rishon, premier chapitre, loi Aleph. Ben c'est Ish, c'est homme, c'est Ishut, c'est... Je ne sais pas comment dire, un mariage.
L'homme attitude.
Comment ?
L'homme attitude, avec un grand H.
Oui, oui, je ne sais pas exactement. Non, c'est une bonne question, je ne sais pas comment... C'est une loi du mariage. Je ne sais pas vraiment répondre. Ok. Donc, première loi. Kodem Matan Torah Aya Adam Pogea Isha Bashuk Imratsa U Vai Lisa Ota Marnisa Lebeto Uboala Beno Lebenatsmo Vati Elo Le Isha. Avant le don de la Torah, alors un mot avant, la Torah prévoit cette loi noachide. La Torah prévoit des lois, des fils de Noé. Ces lois s'adressent à toute l'humanité. Ce sont sept lois. Quelles sont ces sept lois-là ?
Tu ne tueras pas, tu ne tueras pas, tu n'iras pas convoiter la femme de ton prochain. Tu
Niet.
Ne mangeras pas.
Non.
Tu ne mangeras pas.
Non. Tu voleras pas, c'est bon, ça commence bien.
Tu
ne tueras pas.
Tu ne mangeras pas d'un animal vivant.
Tu ne mangeras pas le membre d'un animal quand l'animal est encore vivant, certes.
Tu ne feras pas d'idolâtrie.
Ouais, ouais. Adultère, blasphème et obligation d'appliquer une justice. C'est bon, pas mal. C'est bien. Dans l'ordre, interdit d'idolâtrie, premièrement, interdit de blasphème, interdit de tuer, interdit de voler. Il y a des interdits sexuels. Interdit sexuel, c'est donc interdit d'adultère. Certains incestes, oui. Interdit d'homosexualité et de bestialité. Interdit donc de voler. Interdit de manger le membre d'un animal quand l'animal est encore vivant. Ça signifie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme ça paraît zarbi.
Non, mais je crois que c'est...
Non, c'est très simple. Par exemple, tu as un animal, tu lui coupes une patte. Ouais. Par exemple, je sais pas, tu lui arraches une patte, ouais, et tu la grilles, quoi, tu vois, tu mets au barbecue, et l'animal vit toujours. Ça ne veut pas dire que tu vas le manger cru, tu vas le manger cuit, mais... Ouais. Alors ça, c'est interdit, il faut tuer l'animal. Bon, mais qu'est-ce que ça change? Puisque de toute façon, ce membre-là, il est séparé. Disons qu'un animal, il a fallu l'amputer, je ne sais pas, lui enlever une patte. Je sais pas. Ouais. Bah tu pourrais dire, bon, je la mange, tant qu'à faire. On a faim, je veux dire. Ouais, le barbecue, il y a des braises. Non, c'est interdit. Interdit. Il faut que l'animal soit mort. Comment ?
Quoi ? On a dû lui enlever, elle doit être super bonne.
Pourquoi ? Sous anesthésie. Alors. c'est interdit. C'est une limite.
C'est un animal déjà mort.
Un animal mort ? Il n'y a pas de problème. S'il est mort, il n'y a plus. Vous voulez dire quelque chose, mais quoi ?
L'animal déjà mort, on a le droit de le manger.
Pour les non-juifs ?
Oui.
Ah oui, puisque l'interdit, c'est de manger le membre d'un animal quand l'animal est encore vivant. Bah, il est mort, c'est bon. Ils n'ont pas les lois d'abattage rituel, quelle que soit la manière dont l'animal est mort.
Et la dernière, c'est l'obligation de...
Et c'est une obligation collective que ces forfaits ne restent pas impunis.
Ah, les six autres.
Que les six autres ne soient pas impunis. Ça, c'est collectif. Non, que les six autres.
Il n'y a pas aussi, de manière générale, le fait qu'il y ait une justice également pour d'autres problèmes qu'on peut rencontrer un mort ou autre chose.
Oui, mais tu touches à un moment ou à un autre le vol ou autre chose. Comment ?
Pas vraiment, pas forcément. Je veux dire, par exemple, concernant le respect dû aux parents, c'est-à-dire...
Ils n'ont pas la notion de respect des parents.
Ce que je veux dire, c'est que si une société juge qu'il faut mettre ça en place, ça rentre dans cette loi.
Non.
Non, c'est des lois.
Il n'y a pas le respect des parents dans ce que la Torah conçoit pour les non-juifs. Pourquoi ? Comment ? Ok, bien.
C'est pas ça que je veux dire.
Oui, j'ai compris. S'ils instituent quelque chose, alors il faut le. Je ne pense pas que ça rentre dans cette notion de justice. Ce que la Torah enjoint. C'est pas qu'ils aient un système d'une société qui roule. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils appliquent la justice sur les six lois dont on vient de parler. Bien. Me semble-t-il. On verra ça à la récré. Ok. Bien. Alors maintenant, donc on vient de dire que parmi ces sept catégories, il y a des interdits sexuels. Parmi ces interdits sexuels, il y a l'interdit d'adultère. Donc, il faudra définir à partir de quand une femme est considérée une femme mariée. Adultère, donc, ça veut dire qu'il y a un mariage. C'est ça ce que Maïmonide va définir. Kodem Matan Torah. Donc, comment le mariage, on considère qu'une femme est mariée hors du système du don de la Torah. Kodem Matan Torah. Avant le don de la Torah, Aya Adam Pogea Isha Bashuk. Si un homme rencontre une femme au marché, Imratsa Uvai Lisa Ota. S'il veut lui et elle se marier, remarquez qu'il faut l'accord des deux. Donc, c'est-à-dire. Depuis les lois de Noé, avant le don de la Torah au Sinaï, donc ça veut dire en vérité, c'est aussi pour les non-juifs qui n'ont pas la Torah au Sinaï. Donc pour les fils de Noé, un homme rencontre une femme au marché. Pourquoi Maïmonide la rencontre au marché ? Pourquoi il ne la rencontrerait pas ailleurs ? Il a une certaine vision bizarre. Un homme rencontre une femme au marché. Il pourrait la rencontrer, je ne sais pas moi, au bal du 14 juillet. Pourquoi il la rencontre au marché ? Alors ça, c'est incroyable. Imratsa ou va'i lisaota, si il veut lui et elle. Donc ça veut dire que si elle n'est pas consentante, le mariage est nul. Bien. Marnissa le beto, il l'amène chez lui. Ou bo'ala beno le benatsmo, ils ont une relation intime entre eux. Vatielo les chats, ça devient sa femme. Voilà. C'est comme ça qu'elle s'appelle sa femme. Ça veut dire qu'une relation sexuelle ne fait pas que ça devient sa femme. Comprenons-nous bien, parce qu'il y a énormément de gens qui comprennent de traviole. C'est pas ça. C'est pas que la relation sexuelle fait que ça devient sa femme. C'est pas ça. S'ils veulent se marier,
et qu'ils rêvent chez lui,
et qu'ils veulent se marier, alors la vie commune entérinera le fait que c'est sa femme. Il n'y a pas de procédure juridique. C'est le fait de l'amener chez lui. C'est comme les gitans, quoi. Il l'amène chez lui. Il la prend là, dans les bras. Ouais, il y a les musiciens, chip, chip, chip. Ouais, et il l'amène chez lui. Voilà, c'est sa femme.
C'est-à-dire qu'avant, avant la Torah, pour les Bnei Israël, c'était comme ça. Il n'y avait aucune.
Non, pour les Bnei Israël, il n'y avait pas de Bnei Israël.
Oui, pour les.
Les fils d'Abraham, les Hébreux. Les Hébreux, oui. Alors.
C'était comme ça. Il n'y avait rien du tout, aucune cérémonie quelconque, aucune. Rien.
C'est quoi la différence avec les
Non, le concubinage, c'est un concubinage. C'est fort, ça, ce que je viens de dire. Là, je sens que c'est... Là, c'est puissant. Attention, là, des fois, je ne mets pas... Le concubinage n'est pas une dimension contraignante. Ici, on parle, c'est du juridique. On est dans un livre de loi. C'est-à-dire, une concubine, elle tromperait son concubin... C'est pas son mari. Peut-être il ne se rend pas content, ils vont pas être contents. C'est un autre problème. Mais au niveau juridique, il n'y a pas d'adultère pour des concubins. Adultère, c'est pour des gens mariés. Non, c'est mariage. Bâti, l'Olécha, elle devient sa femme. Donc ça veut dire, avant le don de la Torah au Sinaï, la vie commune dans un contexte de mariage entérine le fait qu'ils sont mariés. Ils ont une vie commune, pas pour être mariés, si vous voulez, pas pour être mariés, mais pour être copain-copine, ouais, pour pouvoir aller acheter des meubles chez Ikea. Non, je sais pas. Ouais. Non, parce que j'avais vu il y a X années une pub géniale d'Ikea. J'ai fait toutes mes études avec Ikea. Non, c'était une pub à l'époque. Je trouvais ça génial. Non, ça veut dire. Mais là, c'est copain-copine. Là, c'est pas de ça dont on parle. Ils veulent se marier. La vie commune entérine le fait qu'ils sont mariés. Ça, c'est avant le don de la Torah. Kivan shenitna Torah, à partir du moment où la Torah a été donnée, Nitztavu Israël, le peuple juif, a été ordonné chez Im Irtze Aish Lisa Isha Ikne Ota Techila Li Bifnedim Vacharkar Tiel Isha. Mais à partir du moment où la Torah a été donnée au Sinaï, le peuple d'Israël a été ordonné que si un homme veut épouser une femme, qu'il l'acquiert au préalable devant témoin, après, elle deviendra sa femme. Chez Neymar, qui ikar ish isha ou baela. Si un homme prend femme, après, il vivra avec elle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la Torah a été donnée au Sinaï, il y a un acte juridique qui va concrétiser le fait qu'elle devient échétiche, la femme d'un homme. Et seulement après, ils vivront une vie commune. Et ça veut dire que ce n'est pas la vie commune qui entérine, mais un acte juridique qui va entériner. Il est vrai qu'après, ces dimensions d'un mariage, d'une dimension juridique structurée au mariage, c'est développé après dans les nations. C'est comme ça que dans la plupart des nations, depuis, ça s'est étendu. Mais ça vient de la Torah au Sinaï. Mais malgré tout, pour quelqu'un qui n'est pas juif, aujourd'hui, eh bien, c'est la vie commune. C'est pas... Prenons un exemple. Prenons un exemple. Il y a Kate... Oui, et William qui ont fait la cérémonie à l'abbaye de Westminster, non, c'est de l'abbaye. Oui,
quelque chose comme ça. Mais si tant est que post cette cérémonie, ils n'auraient pas vécu ensemble, elle n'aurait pas, en tant que non-juif, un statut de femme mariée.
Mais jusqu'au soir où ils arrivent ensemble, oui. Ils habitent ensemble.
D'accord, mais disons que, je ne sais pas, il y a un blitzkrieg, les Japonais attaquent et qu'ils n'ont pas pu, eh bien,
ils ne
sont pas mariés.
Alors que pour les Juifs, le seul acte suffit.
Que l'acte juridique entérine le fait qu'elle est mariée. Alors, ici, il faut méditer qu'est-ce que veut notre grand maître Rambam. Rambam, donc comme je vous ai dit, est dans nos traditions le décisionnaire par excellence. Il y en a d'autres, évidemment. Mais par exemple, quand on parle de Rashi, quand je vous apporte des textes, ou vous allez dans cette étude, ou d'autres études, on voit le commentaire de Rashi. Rashi n'est pas présenté comme un décisionnaire. Rashi, c'est un commentateur. Maïmonide, c'est THE décisionnaire. C'est la classe du décisionnaire. Voilà. C'est d'ailleurs, on l'appelle Anécher Agadol, le grand aigle. L'aigle, c'est-à-dire celui qui surplombe, c'est celui des oiseaux qui va le plus haut, qui voit. C'est le grand aigle, Necher Agadol. Rambam a écrit un livre de lois. Pourquoi Maïmonide introduit-il les lois de mariage par comment c'était avant le don de la Torah au Sinaï? On s'en fout, puisqu'il est en train de nous dire les lois d'Israël, c'est les juifs parlent aux juifs. Les juifs parlent aux juifs. Ouais, ça veut dire, c'est judéo-juif. Il n'est pas en train de faire les lois pour les non-juifs. Qu'est-ce que Maïmonide nous introduit-il que avant le don de la Torah au Sinaï, comme si on voulait ici, Rambam voulait nous dire que la procédure de qui va s'appeler Kiddushin, c'est ce qui s'appelle Kiddushin, l'acte juridique du mariage juif est une innovation 100% de Sinaï. Donc j'aimerais par là essayer de comprendre qu'est-ce que c'est Sinaï. Vous comprenez? Oui. Oui, alors il va le dire dans la suite. Oui. Full camp.
Alors c'est juste ça, mais alors finalement l'adultère, ça n'a pas vraiment de conséquences, parce que si finalement elle veut aller avec quelqu'un d'autre, elle a qu'à juste prendre toutes ses affaires et partir. Non, il faut qu'il lui dise lui.
Il faut qu'il dise full camp. Enfin,
si elle lui dit, ça marche aussi, puisque c'est les
deux. Non, lui il est content avec elle.
C'est ça, mais c'est si elle dit je veux partir.
Ben, il n'est pas content.
D'accord. Non, mais. Elle
comment
se marier à lui.
Ben, il faut qu'il la mette dehors.
Mais en fait, ça vient de ses décisions. Ça vient de ce qu'elle veut, elle.
Est-ce qu'elle peut divorcer d'elle-même?
Non, elle ne peut pas divorcer d'elle-même.
C'est-à-dire que le consentement mutuel est nécessaire
au départ.
Mais après, non.
Mais la répudiation, si vous voulez, la répudiation, c'est l'homme qui. Oui, je comprends très bien. C'est lui qui la répudie en la mettant à la porte. C'est pas un acte juridique. C'est pas un acte juridique. Si, c'est le fait de la répudier concrètement. C'est le fait de la répudier. Le fait de la répudier concrètement. Comment? Ouais. Comment? Il prend ses affaires. Dehors. Voilà. Mais ça, c'est pas par consentement. Pas par consentement. Lui, peut-être, il veut qu'elle reste, et elle va voir ailleurs. Ça s'appelle adultère. Okay. Là, pour, dans un contexte hors Matan Torah. La question est, pourquoi Maïmonide articule-t-il ses lois comme si c'était une innovation fondamentale du don de la Torah au Sinaï? Ça, c'est très, très bizarre. Et, pour rentrer même plus dans le détail du sujet, je m'interroge. Pourquoi Maïmonide dit-il, regardez, le langage, Maïmonide a un langage extrêmement précis, tellement que des fois on se demande pourquoi il est tellement précis. Avant le don de la Torah Sinaï, Aya Adam Pogea Isha Bashuk, un homme rencontrait une femme au marché. On s'en fout. Il la rencontre dans un bateau mouche sur la Seine.
Au marché, souvent, c'est
Oui, mais pourquoi le marché? Pourquoi le marché? Mais pourquoi au marché? Là, là, c'est le retour du machisme. Ouais. Alors, là, non, mais je blague. Hein. Toi aussi. mais pourquoi au marché? Je sais pas, ils étaient... voilà, c'était un touriste, il arrive à Paris avec Woody Allen et il va sur la péniche, sur la bateau mouche, et il voit une jeune fille avec un Magen David, que sais-je, il commence la conversation. Non, je ne sais pas, moi.
Je sais pas, peut-être parce qu'il y a une idée d'acquisition.
Mais ça veut dire quoi, c'est oui. Si c'est pas au marché, ça ne marche pas, là, ce que vous avez dit.
Non, mais c'est sûr que ça marche. Mais c'est une image. Il donne une image, Maïmonide. Mais pourquoi? Comment?
C'est pour nous donner cette idée d'acquisition. On va marcher pour acheter quelque chose. Et là, le terme qui vient ensuite, après Madame Torah, pour...
Mais oui, mais justement, justement, sans votre respect, évidemment, ça va pas. Parce que là, le marché, ouais, on l'aurait bien aimé post Madame Torah. Puisque là, justement, c'est pas tellement juridique. Avant le don de la Torah, il y a du juridique, mais modéré. Le juridique, la procédure véritablement juridique, elle est après le don de la Torah au Sinaï. Alors, le marché, on nous l'eussions aimé après qu'avant. Je dis avant, peut-être après.
Après,
on ne sait pas pourquoi.
C'est pour marquer la rupture. Après, il y a la manne. Donc, il n'y a plus forcément de marché par en tout cas dans le.
Donc il y a la manne encore aujourd'hui, quoi.
Ouais, non, mais pour la suite directe, après le don de la Torah.
On va demander à Dominique Strauss-Kahn qu'est-ce qu'il en pense, lui, des marchés.
Non, mais il y a eu la manne avant de mettre la Torah. Le marché, c'est pas justement le symbole du monde en place.
Oui, c'est ça.
Et après mettre la Torah, c'est parce que plus les choses sont droites.
Très bien. Voilà, ouais, très bien. Donc, ce que vous dites... Moi, j'entends bien. Le marché, c'est un lieu open, quoi. C'est le chouk, c'est de... Tu vas au chouk, t'as tout, quoi. T'as des pastèques, t'as des épices, t'as ferblanterie, t'as des saltimbanques, et une bonne femme, une meuf, quoi. Excusez-moi l'expression, une bonne femme... salut, comment tu vas? Non, un truc un peu FKR, quoi. Un truc un peu à la va comme je te pousse. Un côté un peu pas structuré, quoi. Un truc un peu... On se pousse, quoi. On dirait nous, aujourd'hui, au métro, quoi. Un peu. Il l'a rencontré au métro. Pourquoi au métro? On peut se rencontrer ailleurs qu'au métro. C'est bizarre, quand même. Et encore une nuance. Avant le don de la Torah au Sinaï, on pourrait dire que c'était plus évolué qu'après, puisque si lui et elle veulent se marier, après le don de la Torah au Sinaï, s'écrit « Si lui veut l'épouser et elle ?» Suspense.
Okay.
Ah. Comment? Certes. Pour les connaisseurs, la première Mishnah du traité Kiddushin, le premier mot, les deux premiers mots, c'est comment? Il y en a qui connaissent?
Moi, je me rappelle la traduction.
Oui.
Et quand une femme est achetée.
Pas achetée, acquise. Pas achetée, elle n'est pas achetée, elle est acquise.
Acquise.
Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est écrit Aïcha Niknit, Beshlosha Drachim. La femme est acquise de trois manières. Alors, le Talmud demande pourquoi n'est-ce pas dit? C'est écrit la femme est acquise. Et pourquoi on ne dit pas l'homme acquiert la femme? Pour nous dire que la femme, quand bien même n'est-elle pas le sujet, mais son acquiescement. Est absolument fondamentale. S'il n'y a pas son acquiescement, c'est nul et non avenu. C'est pour ça que c'est écrit « la femme est acquise », c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit présente dans l'acquisition. Quand bien même est-ce l'homme qui l'acquiert, oui, C'est quand bien même, c'est pour ça que les gens, excusez-moi, du monde, par exemple, des yeshivas, des gens pieux, mettez le mot que vous dites dans les journaux, on dit ultra-orthodoxe ou ultra-orthodoxe, enfin, c'est épuisant, vous voyez, l'homme n'a pas d'alliance. L'homme n'est pas acquis, c'est l'homme qui acquiert. D'ailleurs, William, il n'y a pas d'alliance, j'ai entendu ça. Je sais pas si vous avez remarqué, vous n'avez pas d'alliance. Vous avez suivi... Non, je sens que vous n'êtes pas trop people, hein. Non. Guy, tu as suivi tout les festivités? Non, bon. Enfin, moi, je n'ai pas suivi. Non, Chas v'Shalom, j'ai franchement, que les choses soient claires, autre chose à faire. Mais franchement, mais je vous le dis du fond du cœur, j'ai autre chose à faire. Par contre, j'ai entendu subrepticement à la radio que elle a une bague et pas lui. C'est intéressant. C'est intéressant. Il y a beaucoup de coutumes de la famille royale anglaise qui viennent de la tradition juive. Mais c'est un autre sujet. Ça vous intéresse, pourquoi? Ouais. C'est très sérieux. Pourquoi? En un mot. Puisque, au départ, Henri VIII était catholique. Oui. Il était catholique. Et il voulait divorcer de sa femme. Il n'avait encore pas l'idée d'assassiner ses femmes à l'époque. Ce qui viendra plus tard. Mais à l'époque, il pensait divorcer sa femme. Or, dans le catholicisme, c'est impossible. Alors, mais il a dit au pape, au représentant du pape, mais dans la Bible, c'est écrit que l'homme peut divorcer. C'est écrit dans la Torah. Ils ont dit, ouais, ça c'est l'Ancien Testament, patati patata, nous, la sanctification de la chair, verrouillé. Alors, il a dit, ouais, les juifs, c'est mieux. Allez, au revoir. Alors, être juif, c'était pas possible. Il n'en était pas question, mais il a demandé à des sages juifs comment est la législation, et il s'est inspiré de ça pour instituer le divorce. Et c'est ça, les anglicans permettent le divorce, mais sur la base de l'Ancien Testament. Donc il a demandé des choses à des sages juifs, comment ça se passe, etc. Ah oui?
Oui, ce que j'ai entendu au moment du mariage.
Qui peut se marier avec un
fils? La famille royale. Et pas avec un catholique. À cause de cette famille.
Non, mais c'est très important. C'est très important. Vous savez, je fais une petite page de publicité. Nous allons faire le 26 juin une journée sur le couple dans la tradition juive, machin. Et donc, à l'Echeva, on travaille beaucoup, on prépare beaucoup cette journée. Bon, il y aura beaucoup d'interventions, etc. Bon. Et personnellement, je me mets beaucoup dans le sujet. J'ai lu un petit livre, ça ne vaut pas le coup de l'acheter, hein, je vous le dis, parce que. Mais c'est malgré tout un petit peu intéressant, sans plus. Un livre de Patrick Bruckner qui s'appelle La fin du mariage d'amour. Alors, il relève dedans que dans la République française, le divorce au XIXe siècle, jusqu'à fin XIXe siècle, était interdit, selon la tradition catholique. Le divorce était interdit. Peut-être à l'époque de la Révolution française, ça a été permis. On sait que Napoléon a divorcé de Joséphine de Beauharnais, etc. Bon, mais ensuite, quand il y a eu la Restauration, c'est revenu avec l'interdit catholique. Et à la fin du XIXe siècle, c'est un député au Parlement français, Naquet, qui était juif, qui a introduit la possibilité du divorce dans le droit français. Et il y a eu, à cette époque, une diatribe antisémite forcenée, parce que ces juifs qui dissolvent la morale française, comme toujours, évidemment, par le divorce. C'est très, très intéressant, hein. Très, très important, très important. Enfin, je reviens. Excusez-moi, j'essaie de recentrer, parce que
j'aimerais qu'on traite le sujet. En tout cas, je reprends. Rambam dit, avant le don de la Torah au Sinaï, si un homme rencontre une femme au marché, première anomalie, pourquoi au marché et pas ailleurs? Si lui et elle veulent se marier, il amène dans sa maison, ils ont une vie commune, c'est la vie commune qui va entériner, pas par un acte juridique symbolique, mais par la vie commune, le fait qu'ils sont mariés. À partir du moment où la Torah a été donnée au Sinaï, oui, il dit comme ça, si l'homme veut épouser une femme, il dit pas si lui et elle veulent se marier, si un homme veut épouser une femme, comme vous dites, tout à fait justement, Rambam va le dire, dans la suite, ils font son consentement à elle. S'il y a pas son, si elle n'est pas d'accord, c'est nul et non avenu. Mais malgré tout, dans la loi d'introduction, Maïmonide dit « si lui veut épouser une femme, pourquoi ne dit-il pas si lui et elle veulent se marier ?» Il l'acquiert devant deux témoins. Et ensuite, il pourra vivre avec elle. Excuse-moi, Eliol, j'aimerais avancer peut-être. Ouais, c'est... Oui.
C'est que je pense qu'il y a écrit quand même « Imratza » un mot « B », il n'y a pas écrit « Imratsu », donc c'est un peu la même chose. Et si il veut lui et elle. Et si
c'est vrai, d'accord. Alors, si lui veut et elle. Mais après, elle a disparu de la circulation. On ne sait pas pourquoi. Alors, comment ça se fait? Alors, au fil du temps, j'ai essayé de réfléchir. Ah, pourquoi Maïmonide a dit les choses comme ça? Et je vous propose une solution.
Alors, je n'ai pas fait de photocopie
pour tout le monde, mais je vais vous le lire. Je vais vous lire. Il y a un sujet particulier. Il y a un sujet particulier. Il y a un sujet particulier. C'est très important dans le droit civil. C'est les actes d'acquisition. Puisque Maïmonide nous dit qu'à partir du moment où la Torah a été donnée au Sinaï, ce n'est pas la vie commune qui entérinera le fait qu'elle est mariée, mais le terme employé, il acquiert sa femme. Ce terme acquérir est un terme bizarre. Quand, a priori, quand on entend ça, l'homme acquiert sa femme, oui, c'est intéressant. Rivka l'a dit spontanément, il l'achète ou quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Et c'est quoi? Quand, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Il acquiert sa femme. C'est ce que ça veut dire, il acquiert sa femme. Moi, je peux acquérir chez eBay, je peux acquérir, je ne sais pas, moi, les patins à roulettes. Mais qu'est-ce que ça veut dire, acquérir sa femme? Bien. Ce terme, souvent, on a du mal à le comprendre. Il y a les mariages juifs, souvent les rabbins disent, voilà, tu vas donner Kiddushin à ta femme, tu vas acquérir ta femme. Tout le monde dans la salle, dans la synagogue, dit qu'est-ce qu'il veut de sa femme, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Alors, le terme d'acquisition, on va voir dans les lois d'acquisition. Je n'ai pas fait de photocopie pour ne pas alourdir, faire trop de photocopies. Je vais vous le lire, ce n'est pas long. C'est le langage de Maïmonide dans les lois d'acquisition. Maintenant, on change un petit peu de sujet, sauf que le point commun, ça va être l'acquisition. Comment acquiert-on un objet? Voilà. Ce dictaphone m'appartient. Oui. Je veux te vendre ce dictaphone. Voilà. Comment ce dictaphone va t'appartenir? Je vous lis le mot. Le langage de Maïmonide qui est rapporté dans le tour. En amekar nigmar bedvarim. La transaction, le passage de propriété, n'est pas conclu par des mots. Par exemple, voilà, ce dictaphone m'appartient. Et il t'intéresse. On se met d'accord sur un prix, 50 euros. Ok, c'est bon, 50 euros, ça le plaît. C'est bon, on est d'accord, 50 euros. Maintenant, je dis, vous êtes là, vous êtes témoin, ce dictaphone t'appartient. Maïmonide dit non. Non. L'acquisition ne se conclut pas. Donc ça, c'est après le don de la Torah aussi. Hein. La transaction ne se conclut pas par des mots. Shomer le chavero er atanoten li chefetze. Parce que celui qui dit à son ami, combien, pour combien tu me donnes cet objet? Va marlo bekar vekar. L'autre dit tant et tant. Venitratsushnem, les deux sont d'accord. Pascu adamim, ils sont d'accord sur la somme, indubitable. Yacholim l'arzor baem shnem. C'est pas conclu, ils peuvent revenir. C'est pas conclu. Excusez-moi. Va filu aya dava bifne edim. Même si il dit, soyez témoin que je donne ce dictaphone, enfin je vends ce dictaphone. Ton prénom c'est comment?
Samuel.
Samuel, pour 50 euros. Il est d'accord. D'accord? C'est pas à toi. C'est pas à toi. Même si devant témoin. Voilà. Ad chez Igamer à Mekar Kol Davar Vedavar Keraoul. Non. Il faut faire un acte qui conclura un acte qui conclura la volonté de transaction. S'il n'y a pas un acte qui conclut la volonté de transaction, la transaction n'est pas conclue. Alors, les sages du Talmud, en particulier dans le traité Kiddushin, vont définir chaque catégorie d'objets selon son mode d'acquisition spécifique. Par exemple, pour acquérir cela, ce n'est pas l'argent. Par exemple, tu donnes 50 euros, ce n'est pas le don d'argent, la transaction d'argent qui va faire que c'est à toi. Tu prends le dictaphone en soulevant, c'est ce qu'on appelle Agba'a, tu soulèves, tu prends en main l'objet de la transaction, à partir du moment c'est à toi, oui, et tu me devras les 50 euros. Tu me donnes 50 euros, c'est pas conclu, c'est en prenant l'objet, bon, un objet mobilier, ouais. Alors si c'est par exemple un animal, comment ça va se passer? Un terrain, par exemple, un terrain, comment acquiert-on un terrain? Alors ça, des Mishnayot, c'est des Mishnah, dans le traité Kiddushin d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est dans le traité Kiddushin que c'est défini? Parce que l'archétype de la transaction, c'est les Kiddushin, c'est le mariage. Fort de cet enseignement, nous pourrons comprendre qu'est-ce que Maïmonide dit dans le premier texte que nous avons vu ici. C'est-à-dire que l'acte de transaction est la concrétisation de ma volonté. C'est quoi un acte de... Ici, ça c'est une innovation du don de la Torah au Sinaï. Le sujet que je veux voir avec vous, c'est qu'est-ce que le don de la Torah au Sinaï innove? Qu'est-ce que le don de la Torah au Sinaï innove? Nous pouvons voir ici, c'est les actes d'acquisition en premier temps. En quoi? On va dire c'est bidon. Non. L'acte d'acquisition est la concrétisation de ma volonté. C'est la concrétisation de ma volonté. Si moi je te dis, voilà, on est d'accord que ce dictaphone, je te le vends. Je n'ai pas fait un acte qui va exprimer de manière tangible que je veux vraiment cette transaction. Je vous donne un exemple. Est-ce que à vous, ça vous est arrivé la chose suivante? Je vais à Auchan. Je prends un caddie. Ok. Et je vois, un truc sympa. Moi, j'ai ma liste. Ma femme a fait la liste. Bon, il faut acheter de la limonade pour Shabbat, du papier toilette, du sopalin, des trucs. Et je vois, DVD, l'intégrale de Hitchcock en DVD pour un prix défiant toute concurrence. C'est pas sur la liste, vous ferez remarquer. Je mets dans le caddie. C'est vraiment une affaire. Ok, je continue. Machin. J'arrive à la caisse. Je vais remettre en rayon. Vous avez jamais fait ces bêtises hein? Parce que là maintenant, ça devient sérieux. C'est-à-dire, là, je peux rêver. Je peux mettre dans le caddie. Je peux toujours mettre dans le caddie. Ça ne crée pas que maintenant je dois payer. C'est quand je vais passer à la caisse et que la petite dame, elle va passer au scanner, là, qu'il faudra payer.
C'est trop tard, il est passé.
Ouais. Et là, est-ce que vraiment j'ai besoin de ces trucs-là? D'abord, j'ai pas le temps de regarder les films. Ouais, j'ai pas le temps. Puis en plus, je les ai déjà vus, puis je m'en fous. Puis bon, c'est une idée louche. Je veux dire, j'ai pas le fric pour ça, j'ai pas l'argent. Mais bon, on peut rêvasser. L'acte de transaction va concrétiser. Est-ce que je veux vraiment? C'est pour ça que la parole n'est pas suffisante. Quand moi je dis, voilà, c'est à toi, je n'ai pas concrétisé, ou toi l'acheteur, c'est l'acheteur ici en l'occurrence, tu n'as pas concrétisé par un acte la volonté véritable de cette chose. De la même manière, on revient dans le mariage. Et on peut comprendre pourquoi Maïmonide disait « un homme rencontre une femme au marché ». Qu'est-ce qui fait qu'un homme et une femme, ouais, un homme et une femme, selon la chanson du film de Claude Lelouch, ta-la-la-la-la, ta-la-la-la-la, ta-la-la-la, qu'est-ce qui fait qu'un homme et une femme, ils vont vivre ensemble? Qu'est-ce qu'il dit oui, pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Ouais. Et c'est dans le pire que c'est le meilleur d'ailleurs. Mais ça veut dire, est-ce que vraiment ils veulent? Est-ce que c'est pas plutôt, comme a dit Maïmonide, le flux de la vie qui a fait qu'ils se retrouvent, qu'ils sont là, ils sont rencontrés? Le marché, c'est une image des aléas de l'existence, et s'en retrouver une galerie de peinture, voilà, ils sont allés prendre un pot, et plus si affinité, je veux dire, est-ce qu'il y a une volonté qui va s'exprimer? Est-ce qu'il y a une volonté? Ça, c'est l'innovation du Sinaï. L'innovation du Sinaï, c'est... la présence de soi et de ma volonté. Je veux. Avant, ça n'existait pas. L'homme fait partie de l'humanité, du grand jeu de l'humanité. Il est, excusez-moi l'expression, pour revenir au début, un homme touche un mort, c'est naturel, il n'y a rien. Il a une émission de semences, un homme. C'est naturel, une femme, elle a ses règles. C'est rien. On est dans un monde naturel dans lequel on s'insère, on est des êtres humains, donc il faut des règles, il faut un code. Je veux dire, des êtres humains, c'est Hasvé Shalom, c'est pas des animaux. Mais on s'insère dans un univers naturel, somme toute, dans lequel il y a des lois qui sont fondamentales. Une loi fondamentale. Le don de la Torah au Sinaï va faire émerger notre liberté humaine. Mais pas liberté humaine, liberté, j'écris ton nom, machin, un slogan. Non, c'est que Dieu va dire, à partir du don de la Torah au Sinaï, va dire maintenant, vous, les hommes, à vous de jouer. Moi, j'ai géré le monde jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est à vous d'agir. C'est à vous de vouloir. C'est à vous de vous déterminer. Et la question va être, quand tu vas te marier, est-ce mariage, C'est pas simplement les circonstances ont fait que, c'est vraiment tu veux cette femme? C'est ta femme? C'est ta femme que tu veux? C'est l'expression et émerge. Est-ce que ce que je veux, je le veux? Ce que j'acquiers, je l'acquiers? Est-ce que j'exprime une volonté? Est-ce que dans mon acte, c'est pas seulement du juridique, mais le juridique est l'expression d'une volonté humaine? On pourrait dire même ici que jusque-là, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on perçoit beaucoup, qu'on est dans un univers naturel, on s'insère là-dedans, la planète, aujourd'hui on parle beaucoup de la planète, on est à l'intérieur d'un ensemble dans lequel on vit. Bon, la plupart des gens sont censés, ça, on n'est pas des animaux, il faut une morale, il faut des lois, d'accord ? Mais on s'insère dans ces lois, on n'est pas actif à l'intérieur de ces lois. Il y a un Parlement qui vote des lois, on peut faire quelque chose, etc. Mais que chacun d'entre nous, nous sommes dans une certaine mesure maîtres de notre destin. Que quand je vais me marier, c'est pas simplement je vais me marier, mais c'est s'exprime une volonté précise. Là, même l'homme va émerger et la femme va émerger. L'homme va émerger comme expression d'un vouloir et elle comme acceptant ce vouloir. Ça ne va pas être proportionnel. Ça ne va pas être proportionnel. Ce n'est pas sur le même ordre. C'est pas sur le même ordre. Avant Matan Torah, c'est lui et elle. Après le don de la Torah Sinaï, l'homme se positionne comme il agit et la femme accepte. S'il n'y a pas son acceptation, c'est nul et non avenu. Mais il y a une complémentarité. Il n'y a pas une égalité. C'est quelque chose qu'il faut méditer. Mais nous voyons dans les lois d'acquisition, dans les lois que je vous ai rapportées, comment on acquiert un objet, ça c'est aussi une innovation de la Torah au Sinaï. Innovation de la Torah au Sinaï, c'est l'importance du côté juridique, transactionnel. C'est pour ça le Talmud, on pourrait dire la moitié dans ce qu'on étudie, c'est le droit civil. Quelqu'un qui n'est pas habitué, il dit, voilà, dans une yeshiva, il prie toute la journée, machin. Oui, j'ai un cousin, il est dans une yeshiva. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là? Bon, il doit sûrement prier toute la journée. Non, non. Qu'est-ce qu'on étudie dans les yeshivotes? Principalement, le droit civil. C'est bizarre. On reçoit la Torah au Sinaï. Dieu donne sa loi, donne ses lois. Et la concrète, comment ça va se concrétiser? Eh bien, c'est la place de qu'est-ce que je veux au niveau prosaïque, qu'est-ce que je suis en train qu'est-ce que je suis en train d'insuffler dans mon acte? Est-ce que je veux faire ça? Je veux pas faire ça? Est-ce qu'il y a une volonté véritable de transaction? Ça, c'est le cœur de ce qu'on étudie les chiffres. C'est maintenant, on pourrait dire, Dieu va faire d'ailleurs. En le disant, je me souviens un midrash. Est-ce que c'est dedans? Je vous demande une seconde. Il y a un verset. Non, c'est pas dans ce tome. Un verset dans les Lamentations de Jérémie qui dit « Mipi Elion » L'otetse araot veatov. De la bouche du Très-Haut sort ni le bien ni le mal. C'est bizarre. Mipi Elion, de la bouche de Dieu, ne sort ni le bien ni le mal. C'est bizarre. Nous, il y a des gens, ils sont religieux, ils disent non, tout vient de Dieu, n'est-ce pas? Alors. Le Midrash explique, Rashi rapporte le Midrash. À partir du moment où Dieu a donné la Torah au Sinaï, c'est l'homme qui agit. C'est plus Dieu qui agit. L'homme agit dans sa vie et au niveau de son action et de sa perception de ce qu'il est en train de vivre. Nous sommes en train d'exister, de vouloir et de construire notre existence. Et c'est ça, les lois de la Torah. Tous. Pourquoi avant il y avait
7 lois noahides, maintenant 613 commandements. C'est beaucoup pour nous. C'est beaucoup. Pourquoi tout ça? Tous ces commandements, c'est pas seulement pour embêter notre vie. Ça peut l'être. Mais c'est pas que pour ça. C'est pour donner une concrétisation aux différents aspects de notre existence. Pour donner une expression à notre existence. Dieu, par le don de la Torah au Sinaï, nous donne une expression. Notre vie va être l'expression de notre existence. Par les commandements de Dieu. Maintenant, on peut comprendre que c'est ce bouleversement qui va faire que les différentes choses, même très simples de notre existence, ne sont pas seulement des éléments naturels. C'est vrai qu'il y a du naturel. Mais c'est des choses à vivre. Je vis quelque chose, même physiquement, même émotionnellement, c'est significatif. Et je dois faire quelque chose de ça. Je vis quelque chose dans mon corps, dans mon intimité. Eh bien, c'est quelque chose. Je dois exprimer quelque chose avec ça. C'est moi, c'est mon corps, c'est mon intimité, c'est mes sensations. Et ça, je dois faire quelque chose de ça. C'est pour ça qu'émergent les lois de pureté et d'impureté. Les lois de pureté et d'impureté, c'est l'émergence, si vous voulez, de ce positionnement, de cette existence, de cette centralisation de chacun d'entre nous qu'a opéré ce bouleversement du don de la Torah au Sinaï. Donc c'est de manière extrêmement prosaïque, extrêmement même physique, que va s'exprimer notre existence, ce don de la Torah au Sinaï. Voilà, c'est ça ce que je voulais voir avec vous. Pour synthétiser, parce que j'ai conscience que c'est assez subtil, pour synthétiser, je dirais ces lois de transaction résument très très bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on étudie tout le temps dans le Talmud. C'est le comment se fait la transaction, est-ce que ça se fait par Agba, ça se fait par Meshicha, ça se fait par comment tu fais, comment on rédige un acte d'acquisition, un acte de vente, un acte de divorce, un acte de ceci, comment ça se fait, quel est l'intérêt de ça? C'est est-ce que par mon acte, j'ai concrétisé une volonté, ma volonté? Est-ce que je veux ça? Je ne le veux pas. Mais on s'en fout, qu'est-ce que tu veux? On s'en fout. L'essentiel, c'est d'être dans le cadre de la loi. Non, le cadre de la loi n'est pas un cadre, mais ce sont des éléments donnés pour l'expression de notre intimité, de notre existence, de nos choix dans l'existence. Alors avant, si vous voulez, c'est pour ça, de manière presque prophétique, j'ai vu des commentaires, souvent il y a un très très grand commentaire de Maïmonide, Rav Meir Simcha de Dvinsk, souvent... C'est un grand spécialiste du Mishneh Torah. Et il dit, Maïmonide a écrit ça sous une influence prophétique. Quand Maïmonide dit, il a rencontré au marché, c'est prophétique. Tout est là en vérité. Ça, c'était le monde avant le don de la Torah au Sinaï. On est dans la société, on est dans la planète, on fait des choses, mais somme toute, on suit le mouvement, quoi. Est-ce que vraiment, je voulais... D'ailleurs, souvent, c'est comme ça. Les gens, ils se marient souvent parce qu'ils sont dans le même... Qui a dit tout à l'heure? Le marché, parce qu'ils se connaissent au marché? Oui? Vous avez dit ça? Oui? Mais c'est vrai. Souvent, on se marie parce qu'on est dans le même pâté de maison. Il y a même des statistiques. Combien de pourcentage de gens se marient parce qu'ils sont dans le même quartier? C'est ça, les événements font que... Mais est-ce que nous agissons à l'intérieur des événements? Ça, c'est le don de la Torah aussi. Dieu, il a dit, j'en ai marre, à vous de jouer.
On peut dire que c'est comme une majorité, on peut ramener ça, par exemple, c'est un peu la bar mitzvah du... C'est peut-être idiot dit comme ça, mais c'est un peu la bar mitzvah du peuple juif. C'est-à-dire un passage à la majorité, donc à la responsabilisation des actes.
Qu'est-ce qui est la bar mitzvah?
C'est le don de la Torah.
Absolument. Dans une certaine mesure, c'est la bar mitzvah de l'humanité, mais on pourrait dire. Des enfants d'Abraham Israël, des enfants des patriarches. On pourrait dire aussi, c'est très juste, absolument. C'est une maturité, c'est absolument. Très bien.
C'est-à-dire que ça vaut que pour les Juifs, cette responsabilisation face enfin, j'imagine que ça vaut uniquement pour les Juifs et que les goïms sont restés dans un schéma pré-don de la Torah. Enfin,
oui.
Et donc, c'est-à-dire que parce que avant la Torah, c'est-à-dire que Dieu devait être peut-être plus près des hommes pour devoir gérer plus leurs affaires. On
peut
dire de ça que Dieu est plus près des goïms que des juifs
aujourd'hui. Dans le sens,
ce n'est
pas une proximité, c'est plutôt un assistanat.
Oui, premièrement.
Oui, d'ailleurs, vous avez remarqué, il y a dans le soir du Seder, dans la Agada, on dit 25 fois qu'il est Olam Chasdo. 25 fois qu'il est Olam Chasdo. D'ailleurs, le Shabbat matin, on dit aussi Kilo Lam Chasdo dans les psukhé des Imra. Mais bon, de manière, tout le monde le dit, dans l'Agada, Kilo Lam Chasdo, hein, machin, Kilo Lam Chasdo. C'est écrit 25 fois. Le Talmud dit, c'est pourquoi c'est 25 et pas 26 et 24. C'est les 25 générations, depuis la création de l'humanité jusqu'au don de la Torah au Sinaï. L'humanité était gérée par la grâce divine. Mais à partir du don de la Torah au Sinaï, c'est par la justice et pas par la grâce divine. Avant, c'était par le chesed, mais maintenant, c'est le peuple juif qui assume, je dirais, pas tout à fait comme tu dis, je veux dire quelque chose, j'enregistre, bon, ça, il faut enlever les micros. Vous savez, on dit, il y a le protocole des sages de Sion, vous avez déjà entendu parler ? Oui. Protocole de sage de Sion, c'est un délire antisémite qui a été écrit à l'époque du tsar, je ne sais pas quel tsar de Russie, comme quoi il y a un complot fourbi par les juifs pour dominer le monde. Voilà. Et je crois que ce document antisémite délirant est très très distribué dans certains mondes arabes. Ouais, bien. En France, je crois que c'est interdit de vente, un truc comme ça. Bien. C'est puni en France la distribution de protocoles de solution. Il y a un dessinateur juif de Ville Eisner. Il a fait une bande dessinée très rigolote. Imaginons que ça soit vrai, à quoi ça ressemblerait sur le protocole de sage de Sion. Ah, ok. En vérité, j'aime bien les antisémites parce que souvent ils disent des choses vraies. Que c'est pas complètement faux. Que c'est pas tout à fait ce que tu dis. Que le peuple juif, par Torah ou Mitzvot, c'est eux maintenant qui gèrent le monde. Maintenant, nous ne sommes plus dans cette dimension du chesed de Dieu, de la générosité de Dieu, de l'assistana, comme Fana vous avait dit. Ce n'est pas la dimension de l'assistana de Dieu, mais maintenant, c'est la dimension de l'expression de ce que l'homme veut. Pas l'homme avec un grand H, mais de l'homme, chacun d'entre nous. Et ce qui se passe dans le monde est somme toute l'expression d'une justice humaine, de ce que l'homme fait. Mais c'est vrai que c'est pas tout. Les hommes ont conscience de ça. C'est une partie du peuple juif qui a conscience de ça. Et ce qui se passe est le reflet de cette dimension. Mais, et Maïmonide le dit, que ce n'est pas stricto juif, ce n'est pas stricto sensu juif, tu peux avoir des non-juifs qui comprennent ça et qui veulent s'associer à cette compréhension profonde des choses et qui se convertissent. Et que se convertir, en vérité, ce n'est pas simplement parce qu'ils aiment les falafels et qu'ils ont un amour immodéré pour la Tahana Merkazit de Tel Aviv, mais c'est parce qu'ils ont compris que l'essentiel de l'existence de l'humain, de manière générale, c'est l'enjeu qu'il y a dans Torah et Mitzvot. Torah et Mitzvot, ce n'est pas seulement un truc, ce n'est pas tribal, mais c'est un enjeu vraiment qui touche l'humain radicalement simple. Et qu'on peut comprendre que des non-juifs le comprennent intellectuellement, ou pas forcément intellectuellement, mais profondément en eux, et qui veulent devenir juifs. Et c'est quoi devenir juif? En prenant Torah et Mitzvot. Et que par cela... maintenant, je reprends quand même ce que tu dis. Peut-être quand même qu'il y a une dimension plus générale chez les non-juifs. On voit par exemple aujourd'hui, on peut le percevoir, on parle peu de l'homme, on parle beaucoup de la planète. Tu prends une bouteille d'Evian, ouais, grâce à cette bouteille qui est faite dans un nouveau matériau, tu contribues, ouais, à l'équilibre de la planète. Mais, je veux dire, mon équilibre. Ouais, mais essayons de dépasser le blabla publicitaire. C'est quand même... Avant, on parlait, par exemple, il y a 40 ans, de la société. L'homme n'était pas tellement important. On va changer la société. Vous voyez que, comme on disait... là, on parle de Mitterrand. C'était... Comment c'était son slogan? Changer la vie, enfin c'était changer la société à l'époque. C'est changer la société. En parallèle, la société, une dimension qui dépasse l'humain, tu vois, qui dépasse notre insertion à nous. Aujourd'hui, la dimension de société est moins développée, maintenant c'est la planète. Mais ce n'est pas que du blabla. Il y a une dimension comme ça. L'humain qui n'est pas dans la Torah et les mitzvot reçus au Torah, reçus au Sinaï, se perçoit dans quelque chose qui le dépasse. Et son destin le dépasse. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas à faire quelque chose dans l'existence. Ça peut être un salaud ou non. Il a aussi sa liberté. Dans les 7 lois noahides, il y a l'interdit de voler. Ce n'est pas donné à tout le monde de ne pas voler. C'est une grande chose. Oui. Ça paraît simple comme ça. Quand je dis ça, tout le monde dit n'importe quoi. Mais si on a un peu d'expérience de la vie, c'est pas si simple. C'est pas volé. C'est pas si simple. Et aussi, la perception du monde sans la Torah au Sinaï est de manière plus absolue. Si on voit les lois des fils de Noé, comme le Talmud le dit, rapporté aussi par Maïmonide. Par exemple, l'avortement, d'après les lois des fils de Noé, est plus interdit pour les fils de Noé que pour les Juifs. D'ailleurs, on peut... il faudrait rentrer plus dans les détails. Plus dans les détails. Mais prenons un exemple. Les lois d'avortement, c'est très complexe, évidemment. Tuer un fœtus, est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un crime? D'après post-Sinaï, on n'a pas le droit de faire un avortement, sauf pour sauver la mère. Bien, pour faire simple, sauf pour sauver la mère. Si une mère est en danger, ouais, il faut faire l'avortement pour sauver la mère. Maintenant, quelqu'un tue un fœtus, simplement comme ça. Elle est embêtée, elle est enceinte, ça tombe mal, elle a des examens à faire à la fac. Vraiment, c'est très très embêtant. Docteur, est-ce que vous pouvez m'envoyer le bébé? Bien. Alors, un juif ferait l'avortement, il n'est pas condamnable en pénal. Un non-juif fait l'avortement, condamnable en pénal.
Selon les
7 lois noires.
Et ça rentre dans quel cas, là le...
Comment?
Ça rentre dans lequel des 7?
Oui, ça rentre dans le meurtre.
Sur le meurtre?
C'est le médecin ou c'est la femme?
Comment?
En plus, un juif ferait, c'est qui?
Je ne sais pas, un médecin, je ne sais pas quoi.
La personne en question, personne ne trouve que le médecin, par exemple, il est condamnable aussi?
Oui, évidemment.
Le médecin, la femme.
Non, non, pas la femme, le médecin.
Uniquement le médecin.
Le médecin, c'est... Je parle dans un contexte non thérapeutique, pour faire simple, ouais, de complaisance, oui. Donc, non thérapeutique, oui. Est-ce que ça s'appelle un crime ?
Donc, pour un médecin juif, c'est moins un crime, entre guillemets.
C'est pas condamnable en pénal. Pourquoi ? Ça, c'est un vaste sujet. Vaste sujet. Mais je veux seulement dire par là qu'il y a une dimension plus absolue des lois des fils de Noé. Parce que c'est plus global. Tandis que, et ça, c'est quelque chose.
Parce qu'il y en a moins aussi, peut-être.
Comment ?
Parce qu'il y en a moins aussi.
Elles sont de l'ordre d'un absolu. Ouais. D'un absolu. Tandis qu'à partir du moment de la Torah au Sinaï, ça va épouser tous les détails de notre insertion dans la vie, dans cette situation, dans telle situation, etc. C'est la dimension talmudique. Que souvent, les non-juifs, au fil des siècles, n'ont pas supporté, d'ailleurs. C'est-à-dire, le Talmud, c'est diabolique, c'est satanique.
C'est pas foncièrement une religion universelle. C'est-à-dire que quelqu'un, le judaïsme conçoit que quelqu'un puisse ne pas être juif, c'est-à-dire ne pas naître dans cette foi et peut-être éventuellement même ne pas reconnaître le Dieu du judaïsme et pour autant accomplir les lois de ce que.
Non, ça c'est considéré, si tu veux, c'est considéré comme quelque chose de majeur. Que nous on dit Dieu est un. D'un côté, notre tradition n'est pas du tout tolérante. Pas du tout tolérante. C'est-à-dire, il y a un seul Dieu, qu'il soit chinois, inuit, patagonais ou du Bénin, il ne doit pas faire l'idolâtrie. Il y a un seul Dieu. Maintenant, la Torah ne demande pas du tout que les non-juifs deviennent juifs. Mais que les non-juifs soient non-juifs, oui. Qui reconnaissent un seul Dieu.
Un seul Dieu ou ce Dieu-là ?
Ben, ce Dieu-là, c'est le Créateur. Non, il y a un seul Créateur, je veux dire, c'est pas...
Comment ils
rendent
des comptes à la
religion juive qui leur rend compte ? Non, ils ne rendent pas des comptes à leur religion juive. Ils rendent des comptes... Alors, prenons par exemple au niveau biblique. Au niveau biblique, le roi David a fait beaucoup de guerres. C'est connu. D'ailleurs, c'est pour ça, le prophète lui a dit, comme tu as fait tellement de guerres, c'est pas toi qui construiras le temple. C'est ton fils Salomon. Salomon, il y a le mot shalom. Shlomo, shalom, shelo. Que Shlomo qui exprime la dimension de shalom. Mais pas toi David, tu as fait trop de guerres. La plupart des guerres qu'a fait David à l'époque, quand on voit les versets du livre de Samuel, il a fait des guerres contre toutes les peuplades alentours qui étaient idolâtres. Il les a massacrés. Il arrivait avec son armée. Arrêtez de faire l'idolâtrie. Si vous arrêtez pas de faire l'idolâtrie, oups, et tu dis, non, continuez à faire l'idolâtrie. Allez, on y va. Oh, en avant. Tac. Ta.
Et aujourd'hui, on est censé faire pareil.
Comment ?
On est censé faire pareil.
Alors, actuellement, on n'est pas censé. Mais quand tu vois, ouais, merveilleux judaïsme, que quand Maïmonide parle des lois du Messie, du Mashiach, oui, nous, dans toutes les prières, on demande que de nouveau il y aura le Mashiach. Ça va être joyeux, quoi. Ça va être saméar, comme on dit. Il y aura de l'ambiance. Parce que, bon, c'est-à-dire, c'est considéré structurellement que c'est une perversion. Servir une autre réalité que Dieu un créateur, c'est une perversion. Et ne pas appliquer ces lois fondamentales, c'est une perversion. Alors aujourd'hui, on n'a pas les moyens et on a peut-être d'autres chats à fouetter. Il faut déjà qu'on soit déjà un peu plus juif pour peut-être déjà.
Ce qui est étonnant, c'est les inclure dans un système sans les y inclure. Enfin, c'est ça qui doit être frustrant. Et on leur dit, notre système reconnaît que vous avez des lois. Mais vous n'êtes pas dedans. Enfin, le judaïsme dit que vous devez respecter des lois, mais vous n'êtes pas juif.
on le... Mais c'est pas les mêmes lois.
Oui, mais c'est nous qui dit c'est
non, mais attends, mais regarde, non, mais regarde, aujourd'hui, regarde, il y a quelque chose qui est quand même extraordinaire. Si on prend un petit peu de recul, on est 3300 ans, grosso modo, après le don de la Torah au Sinaï. On est, disons, grosso modo, 3300 ans après le don de la Torah au Sinaï. Si on fait un petit arrêt sur image, presque toute l'humanité reconnaît la Bible. Ah bah oui, je veux dire, même l'islam qui a le vent en poupe, l'islam, et finalement, c'est un remake de la Bible, à leur manière. Ils veulent pas reconnaître que c'est Isaac qui était sur le mont Moria, ils ont dit c'est Ismaël qui était sur le mont Moria. Ok, mais grosso modo, le Coran, c'est la Torah new wave. C'est si tu veux, un musulman, tu lui parles de Moussa, tu lui parles de Youssouf, il est chez lui. Il sait qu'il y a le don de la Torah au Sinaï. Il sait que Moïse est fondamental. Il le sait. Il ne l'admet pas politiquement. Il ne l'admet pas peut-être par narcissisme, par fierté. Mais il sait que les prophètes d'Israël sont centraux. Les musulmans, qui sont je ne sais pas combien de milliards sur Terre, ils le reconnaissent. Les chrétiens, il y a eu un ils ont fait, comme dirait Nietzsche, il dit magnifiquement, il dit, il n'y a pas plus grande offense à l'humanité que de mettre à côté le Nouveau Testament, à côté de l'Ancien Testament. Tu as déjà lu ça dans Nietzsche ? Super rigolo. Il dit que l'Ancien Testament, c'est vraiment quelque chose. Le Nouveau Testament, il dit, c'est de la bibine, c'est vraiment sans saveur. Mais les chrétiens, ils le savent. Ils savent que la base, il y a eu la Torah au Sinaï. Ils le savent. Ils y réfléchissent pas tout le temps. Nous aussi, les Juifs, on n'y réfléchit pas tout le temps. Mais ils le savent. Donc, quand tu dis que c'est imposer un système à des gens qui n'en ont rien à faire.
Non, surtout qui en sont exclus malgré tout.
Mais on leur demande pas d'être juifs.
Je comprends. Oui, justement, mais de respecter quand même des lois qui sont données par les juifs, entre guillemets.
Donc ces lois-là, tu disais qu'ils préexistaient avant la Torah, mais cette loi.
Oui, comme dit Joël, elles sont avant le Sinaï.
C'est ça.
Je comprends pas bien. Expliquez-moi qu'est-ce qu'il dit. J'ai pas.
Elles viennent d'où cette loi ? Elles étaient écrites où ?
C'est écrit. On apprend ça des versets. Bah, on apprend ça dans Noé. Parashat dans Noé. Après
le déluge. Mais qui a écrit cette loi ?
C'est l'auteur. C'est Platon. Je le sais. Je
sais.
Ça me choquerait pas que des Chinois disent, ok, nous on est Chinois, on doit manger des sushis 3 fois par jour, d'accord ? Si on mange pas des, enfin non, ils mangent pas des sushis les Chinois. C'est vrai. On est des Japonais, voilà. Nous, on doit manger de manière rituelle des sushis et à 65 ans, on doit se faire harakiri. Sinon, on n'est pas japonais, d'accord ? Bien. Ok, ça c'est leur truc. Mais par contre, nous en tant que Japonais, notre système shintoïste conçoit que toute l'humanité se doit d'un minimum. Que on conçoit que tout... Ce qu'on disait là, c'est pas qu'on impose... on n'impose pas à toute l'humanité de lire Actualité juive. Ça, je conseille. Néo-juive, d'ailleurs. Là, j'abonderais dans ton sens que ce serait un peu bizarre, n'est-ce pas? Ni d'aller se bronzer à Natania. Je concevrais que c'est un peu de quoi je me mêle. Mais par contre, la Torah nous donne des choses, oui, la Torah parle aux Juifs. D'accord, tac, 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 tac. Et comme j'ai dit, Maïmonide le dit magnifiquement, la Torah ne s'adresse pas qu'aux Juifs. Elle s'adresse aussi, les 613 commandements, à toute personne parmi les nations qui s'en sent concernée. Ce n'est pas stricto sensu juif. La Torah s'adresse, dit Maïmonide, aux descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, et toute personne parmi les nations qui s'en sent concernée. Ok, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en sont concernés. Ok, ce étant, toute l'humanité, ouais, se doit d'un minimum commun. Moi, j'arrive pas à être choqué. J'aime bien être choqué, mais je n'arrive pas à l'être, quoi. Alors, fais-moi participer de ton shocking.
Si, imaginez, excusez-moi, imaginez que vous êtes goy, pardon, mais si je dois...
Ne vous fiez pas aux apparences. Imaginons.
Je dois vous informer du fait qu'il y a cette loi que je considère...
C'est pas toi qui considères. Ton prénom, c'est Raphaël?
Oui.
Oui, c'est pas en tant que Raphaël, c'est en tant que Dieu, oui. Créateur, je veux dire. C'est, ça donne une certaine.
Moi aussi.
Ça donne une épaisseur quand même à la chose.
Oui, il faut quand même les informer. C'est-à-dire qu'il faut informer des jeux. Enfin, il n'y a aucune.
Mais on en connaît, j'ai des gens qui ne sont pas juifs et qui disent. Je suis pas juif, mais je reconnais le Dieu des Juifs. Et pourtant, ils sont pas juifs. Enfin, c'est ça qui sont.
Mais c'est pas le Dieu des Juifs. Non, c'est pas le Dieu des Juifs. Comment dire, c'est pas que le monde a été créé par le Dieu des Juifs. Il a mis sa kippa, et ses péotes. Je me moque pas, j'aime rigoler, c'est tout, je me moque pas.
Bon, je reconnais Hachem, voilà, je suis pas juif, mais je reconnais le peuple juif, mais je reconnais le créateur. Je suis pas juif pour autant. Il y en a plein. Il y en a qui reconnaissent, c'est ça qu'ils sont censés vivre. Et ceux-là, ils acceptent complètement les 7 lois, ils n'ont aucun problème.
Et d'ailleurs, ça peut être contraignant quand même, hein. Hein, ça peut être contraignant, beaucoup. Ok. Je vais réfléchir comment on peut aborder les 7 lois de Noachid. Je vais réfléchir comment, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas tellement. Je réfléchis à ta question. Ok.
Il y a quelque chose que je
ne sais
pas. L'homme agit et Hachem n'intervient pas.
Oui.
Comment ça, il n'intervient pas?
Mais c'est ce qu'on dit dans le 19e. Dans le 19e, on dit Dieu intervient tout le temps. Mais là, je me permets, ici à Flem, de dire que non. C'est bon, j'aime bien ici venir à Flem. C'est détendu.
C'est les
gauches. Comment?
C'est les gauches. Bien.